Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque semaine, je vous livre des outils concrets pour votre classe pour que vous puissiez contribuer au plein épanouissement de vos élèves et à votre plein épanouissement. Dans ce podcast, vous allez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation et trouver des outils pour votre classe. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis ou collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5 euros par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le 124e. Donc c'est un épisode questions-réponses où j'ai essayé de répondre à la question de Marjorie qui s'inquiétait en fait du fait d'être la seule à avoir un fonctionnement Montessori dans son école et qui s'inquiétait pour ses élèves pour la suite et qui culpabilisait un petit peu et se demandait si ça valait le coup juste pour une année. Donc on a échangé sur ce sujet et j'ai essayé de la rassurer sur le fait que, enfin, je lui ai donné mon avis en lui disant que pour moi, même pour une année, ça vaut largement le coup. Avant de vous partager mon échange avec Marjorie, j'aimerais vous partager les deux témoignages que j'ai reçus pour me remercier du podcast. Ça m'a fait chaud au cœur. Donc Claire m'a dit « Je suis actuellement en formation d'éducatrice Montessori et je voulais te remercier pour la richesse de tes partages des podcasts. J'avoue, c'est une vraie aide pour moi pour formuler autrement mes cours ou pour les enrichir. C'est vraiment précieux, merci pour ça. » Et il y a quelques temps, Marine m'avait dit « Merci Céline, je suis en plein dans la formation Éduc 3-6 et tes podcasts me servent pour réviser ou même réaliser mes écrits, nombreux. Je t'écoute toujours et c'est toujours très intéressant. » Donc j'étais vraiment ravie de recevoir ces deux témoignages. Et je me dis, si les podcasts leur apportent autant à toutes les deux, bah imaginez tout ce que la formation Impact pourrait vous apporter. Dernière information avant de laisser place à ma conversation avec Marjorie. Le 3 décembre, j'organise un webinaire et le sujet, ça sera sur le langage. Comment enrichir le langage oral de vos élèves dans votre classe en maternelle? Donc si vous n'êtes pas vraiment satisfait de votre aire de langage, si vous ne savez pas vraiment comment les enfants acquièrent le langage, ou si vous trouvez que vos élèves ne progressent pas suffisamment pour le langage oral, eh ben je vais répondre à plusieurs questions. Donc, comment l'enfant acquiert-il le langage? Comment enrichir l'environnement des jeunes enfants pour leur offrir toutes les chances de développer un langage riche? Quel est notre rôle dans l'acquisition du langage de nos élèves? Et quels sont les 6 principes de la recherche qui participent à l'enrichissement du langage? Donc, pour répondre à ces questions, je m'appuierai sur un des dossiers de la formation Impact. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et donc, ça sera le 3 décembre. Allez, je laisse place à ma conversation avec Marjorie. Bonjour Marjorie, vous allez bien?
Oui, et vous?
Oui, ça va, merci. Je suis contente de pouvoir échanger avec vous ce soir.
Ben, moi aussi, oui.
Voilà. Donc, du coup, j'enregistre pour que les auditeurs puissent en profiter pour le podcast, mais que le son, hein, pas le...
Oui, pas l'image. Il n'y a pas de problème.
Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien commencer par relire le petit texte que vous m'avez envoyé pour donner un peu de contexte, puis après vous pouvez rebondir à partir de ce petit texte-là.
D'accord, ça marche.
Alors, vous m'aviez partagé... Donc ce petit texte. Enseignante depuis 1999, j'ai eu des CP, CPCE1 et CPCE2 pendant 21 ans. Puis je suis passée en maternelle en 2020 pour me sentir libre d'appliquer toute la journée ce que j'ai appris des vidéos de Céline Alvarez. Je suis la seule d'une école de 11 classes à fonctionner ainsi. Mes élèves doivent donc faire un gros travail de plusieurs mois pour construire leur autonomie par le libre choix et retrouver leur motivation endogène. Mais dès l'année suivante, ils doivent redevenir des élèves obéissants dans des classes où les savoirs acquis chez moi, autonomie, entraide, motivation endogène, curiosité, sont dévalorisés. Mes collègues me culpabilisent un peu et même si je sais ne pas vouloir revenir en arrière, je me demande si je rends vraiment service aux enfants qui ne restent qu'une année dans un système favorisant leur émancipation. C'est un sacré message hein, que vous m'avez envoyé là. Et c'est vraiment une question fondamentale, donc je suis super contente qu'on puisse échanger sur ce sujet aujourd'hui.
Moi aussi, parce que vraiment, je suis dans une espèce d'impasse, c'est-à-dire qu'effectivement, revenir en arrière ne me semble pas possible, pas envisageable du tout, mais continuer comme ça me questionne aussi beaucoup.
D'accord. Et donc, vous dites 11 classes de maternelle. C'est 11 classes. Est-ce que c'est 11 classes de maternelle?
Non, il y a 4 classes de maternelle et 7 classes d'élémentaire.
D'accord. Donc, 4 classes, ça veut dire 3 collègues ou un peu plus s'il y a des mi-temps, quoi.
Oui, en maternelle, j'ai 3 collègues, effectivement.
Oui, 3 collègues. D'accord. Et cette année, quel niveau vous avez?
J'ai des moyens grands.
Moyen grand. D'accord. Et donc, du coup, ces enfants, enfin les moyens de cette année, vous les aurez en grande section l'année prochaine. Vous les avez sur 2 ans ou pas forcément?
J'espère, je vais en garder au moins quelques-uns, parce que en fait, ça dépend de nos effectifs, par classe d'âge.
Ah, donc des fois, des enfants sont remélangés et vous n'avez pas forcément 2 ans de suite les mêmes élèves.
Alors là, pour la première fois cette année, j'ai les petits de l'année dernière, j'en avais 13, il y en a 8 qui sont chez moi, chez les moyens. Mais c'est la première fois que je suis en année 1, en fait,
Oui.
que je
Donc,
poursuis un petit peu ce que j'ai commencé.
l'année dernière, vous aviez eu des petits, du coup.
L'année dernière, j'avais petit grand.
Petit grand, hein, d'accord. En fait, j'ai l'impression que ça peut changer souvent d'une année à l'autre, quoi. Selon les petits grands, moyens grands, c'est
C'est
difficile.
ça, j'ai mis un peu une option sur les grands parce que j'aime vraiment bien l'idée de les préparer au CP, ayant eu des CP pendant si longtemps.
Oui.
Et du coup, je complète mon effectif jusqu'à 24 avec des fois des petits, des fois des moyens.
D'accord. Et est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir des petits moyens grands et de pouvoir garder les enfants sur 3 années, qu'il n'y ait pas de changement?
J'ai proposé à mes collègues, je ne sais pas si ça se fera, honnêtement, parce que ben, je dois tenir compte également de leurs envies à eux. Mais c'est quelque chose, oui, que j'aimerais bien pouvoir faire. Après, comme ça dépend toujours des effectifs, c'est pas forcément les mêmes que enfin, je ne vais pas forcément garder toute la cohorte sur 3 ans.
Ouais, c'est ça qui est dommage parce qu'en fait, le
Ouais.
gros avantage, c'est de garder les mêmes enfants sur 3 ans, d'apprendre à les connaître, qui s'habituent avec le fonctionnement. Enfin, bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas encore voilà, quelque chose que vous vivez. Pour l'instant, on va dire que vous êtes sûr de les avoir au moins un an, des fois
C'est
deux,
ça.
mais déjà au moins qu'une année. OK. Et dans votre changement de pratique, qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans les vidéos de Céline Alvarez et qui vous a vraiment donné envie de travailler autrement?
Alors, ben moi, j'ai lu le livre de Céline Alvarez il y a quelques années. Moi, je n'ai
D'accord.
pas fait que le lire, hein. Je l'ai relu, je l'ai annoté, je l'ai recopié, j'ai recopié des passages entiers. Enfin, vraiment, à la fin de ce livre, je savais que je ne pourrais plus jamais faire comme si je ne l'avais pas lu. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que vraiment, c'est comme ça que mon intuition m'avait fait faire avec mes propres enfants. Et qu'elle propose de faire la même chose avec toute une classe. Mais je me suis dit, mais oui, en fait. Évidemment, que c'est ça qu'il faut faire, que ça a marché avec mes enfants. Ils sont très motivés pour tout un tas de choses. Ils ont leur propre centre d'intérêt, ils creusent jusqu'au bout, etc. Alors que je ne connaissais pas du tout la pédagogie Montessori, rien du tout, hein, mais voilà, prendre du temps avec eux, leur faire faire des choses ensemble. Et je me suis dit, mais proposer ça à toute une classe, ça doit être génial. Alors à l'époque, j'avais des CP, CE1. J'ai commencé doucement par 1 heure le matin, 1 demi-heure l'après-midi. Et quand une classe s'est ouverte en maternelle, je me suis dit, je saute là-dessus pour le faire toute la journée. Bon, c'est pas toujours facile. C'est d'autant plus difficile qu'effectivement, ils viennent déjà de passer 1 ou 2 ans dans un système classique et qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. En plus, je m'entends très bien avec tous mes collègues et qui font un travail formidable comme je faisais un travail aussi formidable avant de découvrir qu'on pouvait faire autrement, quoi. Mais c'est vrai que ça me fait mal au cœur, du coup, l'année suivante, de me dire, ben, on va à nouveau leur dire restez assis, écoutez, non, c'est pas toi qui choisis, faites ça tous en même temps. Donc, c'est pas évident du tout.
Ouais. Mais déjà, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit, je faisais un travail formidable, elles font un travail formidable, et je trouve ça super déjà que vous puissiez le dire, parce que des fois, on a tendance à dire, oh, je suis pas trop satisfaite de mon travail. Et là, en fait, ce qui est intéressant là, dans votre message, c'est que chaque enseignant fait un travail formidable avec les cartes qu'il a en main, en fait.
Mais franchement, je ne connais que des enseignants qui veulent le meilleur pour leurs élèves et qui font tout pour ça, qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent énormément. Alors, on ne passe pas tous par le même chemin, mais effectivement, je ne connais, en tout cas dans mon école, tous les enseignants veulent vraiment le meilleur pour leurs élèves.
Ça c'est chouette. Après, je me dis que vos collègues, les collègues qui disent aux enfants restez assis, non, vous ne choisissez pas, je me dis qu'en fait, c'est pas qu'ils veulent bien faire, mais ils n'ont pas toutes les cartes en main pour bien faire. Il leur manque du coup des connaissances, des compétences qui sont voilà, toutes celles que vous avez découvertes par le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, j'imagine, le premier.
Oui.
Voilà, c'est toutes ces cartes-là, voilà, les collègues ne les ont pas en main. Et du coup, qu'est-ce que... Dans votre message, vous dites que vous hésitez, pas que vous hésitez, mais vous avez mis... je ne veux pas revenir en arrière, mais je me demande si je rends vraiment service aux enfants. Moi, je pense que oui, vraiment. Parce que même si c'est qu'une année, bah, c'est toujours ça de prix, en fait. Et une année dans la vie d'un enfant, ça peut... Enfin, c'est long, une année, pour un enfant. C'est... Donc, enfin, j'imagine que la situation n'est pas confortable. Enfin, je peux vraiment l'imaginer parce que je l'ai vécu aussi. Et je n'ai pas réussi, voilà, à échanger avec mes collègues, à les faire avancer, on va dire. Ça n'a pas été une réussite pour moi. Mais je trouve que quand vous travaillez dans cette direction, même si c'est que vous avez les enfants qu'une année, et des fois, ça va être deux... tout ce que ça va leur apporter, en fait, c'est vraiment formidable. Donc, je comprends en fait que vous aimeriez que vos collègues travaillent comme ça, mais là, c'est un autre sujet, les collègues.
Oui, mais je ne compte pas les convertir de toute façon. Ouais. Je sais très bien qu'un chemin, c'est personnel. Ouais. Elles feront leur chemin ou pas.
Oui.
Mais c'est surtout pour les enfants eux-mêmes, c'est-à-dire que quand ils se retrouvent dans cette position après avoir appris à énormément bouger dans la classe, s'entraider, ça me fait mal au cœur quand des enfants qui ont mis du temps à devenir d'excellents tuteurs avec les autres enfants, qui ont mis du temps à travailler l'empathie, etc., arrivent avec en CP avec l'envie d'aider ceux qui n'y arrivent pas, et qu'on leur dit non, non, tu le laisses faire tout seul, c'est pas ton rôle, et puis de toute façon, on est au cahier du jour et je veux savoir ce qu'il sait faire tout seul. Et moi, en fait, j'ai passé un an à déconstruire tout ça, et juste derrière, ben, j'ai des fois un peu l'impression de les envoyer dans un mur, quoi.
Ouais. Je comprends votre sentiment. Et même si je comprends à 100% votre frustration, je me dis que l'expérience qu'ils auront vécue avec vous aura quand même eu un impact positif sur eux. Alors évidemment, on rêverait que ça continue et que voilà, on a trop envie que ça continue pour les années suivantes. Mais comme vous dites, on ne peut pas forcer des gens à cheminer quand ils ne sont pas encore prêts. Mais moi, ce que je me demande, est-ce que avec vos collègues, vous avez déjà eu des temps, comme il y a plein de réunions, plein de, voilà, de moments quand même où on est tous regroupés, est-ce que vous avez eu un temps pour leur présenter ce que vous faites et pourquoi tous ces choix-là, pourquoi vous faites tous ces choix dans votre classe? Est-ce que vous avez eu un moment pour leur en parler vraiment? Quand je dis un moment, c'est 3 heures, pas seulement 10 minutes quand on se croise dans la cour de récré.
Non, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment osé faire parce que bah, ça me rappelle un nouveau podcast, Montessori, celle dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est un peu un gros mot dans mon école. Il y a des mots comme Montessori et même des fois bienveillance qui sont galvaudés parce que, en fait, si elles savaient réellement de quoi il s'agit, je pense que Elle ferait elle aussi preuve de bienveillance et trouverait que Montessori avait de très bonnes idées. Mais non, pour l'instant, j'ai encore jamais osé parce que j'entends trop de phrases qui disent oui, ben chez eux, ils doivent faire du Montessori, ça se voit, ils n'écoutent rien, etc., quoi. Donc, pour l'instant, je ne me sens pas encore capable. Paradoxalement, je reçois des stagiaires, je suis maîtresse d'accueil, donc je reçois des stagiaires et je fais une pub phénoménale à chaque fois pour cette méthode et je suis hyper enthousiaste et j'ai 1 000 trucs à leur raconter. Mais avec mes collègues, bon, elles savent que j'y tiens. Elle me respecte suffisamment pour ne pas chercher à me blesser ou à me faire du mal, mais à mon sens, elles ne sont pas prêtes
Ouais.
à entendre une conférence de 3 heures sur ce sujet.
Alors, pourquoi vous m'avez écrit, mes collègues me culpabilisent un peu?
Et bien justement, parce que quand elles viennent me dire, tu sais, en fin d'année, tu devrais peut-être réduire les choix parce que... Quand ils arrivent au CP, nous, on doit après leur apprendre que ce n'est pas à eux de choisir. Elles estiment que la liaison grande section CP ne se fait pas tout à fait en douceur pour les enfants. Et elles me le disent gentiment, hein, ce n'est pas pour toujours dans l'intérêt de l'enfant. Je sens bien que ce n'est pas pour m'embêter moi, c'est pour que les enfants soient bien en arrivant au CP. Mais du coup, ça me culpabilise forcément un petit peu, quoi.
Ouais. Enfin, je comprends, hein, mais je me dis c'est quand même fou parce qu'en fait vous êtes dans la bonne voie en fait. Enfin, c'est maintenant les recherches le prouvent en fait que il y a plein de recherches qui prouvent que le fait de laisser aux enfants la liberté de choix, la liberté de mouvement, l'entraide, enfin que tous ces piliers-là de la pédagogie Montessori, enfin on va dans le bon sens et que c'est favorable pour les enfants. Donc c'est quand même dommage de dire que c'est enfin, vous êtes la seule dans votre école et c'est vous qui ressentez de la culpabilité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dommage, quoi.
Et oui, c'est sans doute très dommage.
Mais pour revenir sur ce que vous avez dit, que vous partagez avec plaisir à vos stagiaires, enfin, c'est ça, c'est des stagiaires hein, qui
Oui,
viennent
c'est des
plus tard.
stagiaires qui viennent dans
Voilà.
la classe, oui.
Le fait que vous partagiez votre élan et tout ce que vous faites enfin, voilà, avec plaisir à vos stagiaires, moi j'aurais envie de vous inviter à réfléchir si un jour, pas forcément demain ou dans la semaine prochaine, mais est-ce que vous seriez prête à demander à vos collègues en fait cette écoute? Parce que tout ce que vous partagez à vos stagiaires, mais en fait elles pourraient en profiter et ça ne veut pas dire que le but ne serait pas de les convaincre. On sait qu'on ne peut pas convaincre les gens, mais peut-être qu'elles vont juste entendre un argument, puis chacune va entendre un argument différent, et puis ça va cheminer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi, je partirais de choses très concrètes. J'avais écrit un article là-dessus et j'avais mis par exemple, si votre collègue elle vous reproche que dans votre classe les enfants font tout ce qu'ils veulent, qu'est-ce que vous lui répondriez?
Ah ben moi, je répondrais que déjà, c'est moi qui ai choisi les activités qui étaient dans la classe. Donc, non, ce n'est pas tout ce qu'ils veulent. Et puis que parmi ces activités-là, je ne les laisse pas faire n'importe comment. Je cadre énormément la manière de faire. Et qu'effectivement, de temps en temps, je ne vois pas tout. Et il y en a qui détournent le matériel. Il y a des choses qui m'échappent, clairement. Mais que non, ce n'est pas ce qu'ils veulent. C'est ce que moi j'ai choisi pour eux au départ et à ma manière.
Ouais,
Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils veulent.
c'est vous qui avez préparé l'environnement et voilà, c'est vous qui avez choisi en fait ce que vous mettez dans l'environnement.
C'est ça.
Ouais. Puis ils font pas ce qu'ils veulent, ils veulent ce qu'ils font. Je sais pas si vous avez déjà entendu
Oui, c'est complètement
ça.
différent.
Voilà. Et je vous embête un peu avec mes questions, mais en fait mon but c'est de vous montrer que vous avez tout. Je suis sûre que vous avez tout pour parler à vos collègues. Et si vous aviez une collègue qui vous reprochait d'être trop à l'écoute des enfants et de trop tenir compte de leurs besoins? Qu'est-ce que vous lui répondriez?
Alors, je pense que je répondrais qu'il faut bien différencier les désirs et les besoins et que si je n'accède pas à tous les désirs de mes élèves, j'essaie vraiment de deviner quels sont leurs besoins, parce que je trouve que c'est très important que quand nos besoins sont comblés, il y a quand même tout un tas d'émotions négatives qui ne viennent plus interférer dans l'apprentissage.
Ouais, super. Et est-ce que des fois vos collègues, elles vous reprochent par exemple de ne pas sortir en récréation en même temps qu'elles, ou est-ce que vous vous pliez à la récréation en milieu de matinée?
Ben, je me plie aux horaires de récréation, je me plie aux horaires de salle de motricité. Je ne peux pas complètement m'exclure de ouais. tout ce système. En plus, on surveille quand même les enfants tous ensemble. Et je trouve aussi très, très chouette qu'ils rencontrent aussi les enfants des autres classes, de toute façon, les élèves.
Oui, ouais, mais du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de sortir qu'en fin de matinée pour avoir une période de travail ininterrompue.
On sort de toute façon tous en fin de matinée parce que notre école est très... Enfin, les effectifs ont augmenté de manière spectaculaire ces derniers temps. Et du coup, on a une cour de récréation qui ne nous permet pas de... On la partage avec l'élémentaire. Et du coup, ben, on sort après. Donc, on sort de toute façon en assez fin de matinée. Et globalement, oui, je trouve le temps d'activité très...
Oui, vous avez quand même une longue plage de travail avant la récré, du coup, vu que c'est en fin de matinée. D'accord. Et si vous aviez une collègue qui vous reprochait, enfin, qui vous reprochait entre guillemets, de ne pas récompenser le comportement des bons élèves avec des étoiles, des seins, enfin, peu importe.
Alors ça, je lui dirais que je l'ai fait pendant des années et que ça ne change rien. C'est-à-dire que les bons élèves continuent à avoir des gommettes, des étoiles, des machins, et que ceux qui n'en ont pas en septembre n'en ont pas plus en juin. Donc, je trouve que ça sert à rien.
Ouais. Donc, vous voyez, les réponses, en fait, vous les avez déjà. Et tout ce que vous partagez à vos stagiaires, j'imagine, là, c'était juste 3-4 questions comme ça, prises au hasard. Mais je pense que ça vaudrait le coup que vous vous posiez cette question. À quel moment je me sentirais prête d'expliquer mon fonctionnement de classe à mes collègues? Parce que vous avez tant à leur apporter que... Voilà, pas dans le but qu'elle change.
Oui, c'est ça. J'aurais vraiment peur de faire du prosélytisme et d'être un peu. Regardez-moi, moi, je détiens la vérité et faites comme moi. Et ça, c'est quelque chose qui me ressemble pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus facile avec des stagiaires qui ne connaissent rien. Je leur dis juste, voilà, je vous montre mon modèle en fait. Je vous montre ce que je fais, je vous explique pourquoi je le fais.
Ouais.
Mais en fait, je vous demande, je ne serai pas là pour voir si vous changez. Ça ne changera rien pour mes élèves à moi que vous suiviez ma méthode ou que vous fassiez autre chose.
Ouais. Et pourquoi pas alors partir de l'enfant, pas partir de votre méthode, de votre façon de travailler, mais de l'enfant et de ce que vous observez entre le début d'année, le milieu d'année et la fin de l'année.
Ben, je leur en parle de temps en temps. Après, c'est sûr que... Bon, après, c'est une déformation professionnelle assez classique. Hein. On parle très souvent des élèves en difficulté. Donc, ben, certains sortent quand même de ma classe en n'y étant resté qu'un an avec quelques difficultés qui ont persisté. Et ça, c'est vrai que j'ai beau savoir que j'en aurais sans doute eu encore plus avec un fonctionnement traditionnel. Ces enfants-là qui arrivent au CP en ayant encore quelques petites lacunes et quelques difficultés font que, ben voilà, on peut me dire que ma méthode, elle n'est pas si parfaite que ça. Que
c'est pas une méthode miracle non plus.
Voilà, que c'est pas une méthode miracle et tout. Et non, pour l'instant, vraiment, je me sens pas très à l'aise à l'idée de risquer notre amitié, presque, sur ce... J'aurais un peu, oui, l'impression de risquer notre amitié. On s'entend toutes très bien, on est une très bonne équipe, elle respecte ma liberté pédagogique, je respecte la leur. Et bon, je pense quand même que... Ben que les collègues de CP voient que certains élèves arrivent au CP en sachant déjà un peu lire et tout. Des fois même, ça les embête, très sincèrement.
Oui, parce que
L'hétérogénéité les embête.
Ben oui, c'est sûr. Oui, parce que là, en fait, quand vous parliez des collègues dans le message que vous aviez écrit, vous parliez des collègues de CP, enfin d'élémentaire.
Oui, c'est
Alors
ça. Les
qu'avec
collègues de
collègues.
maternelle me laissent faire mon travail,
Voilà.
et sont même des fois un peu curieux de ce qu'ils voient, par exemple, en récréation. Il y a des choses qui ont carrément été adoptées. J'ai une collègue qui, maintenant, demande que les élèves mettent la main sur l'épaule quand elle est en train de parler. Parce qu'elle m'a vu faire en récréation et qu'elle a trouvé que c'était drôlement bien de pouvoir terminer notre conversation et de laisser l'enfant un petit peu tempérer son intervention. Et il y a comme ça, de temps en temps, des petites choses. Il y a une autre collègue qui a vu ma frise numérique avec les photos et qui m'a dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et qui l'a mis en place dans sa classe et qui me dit, waouh, mais ça marche super bien, ton truc. Donc, je sème des graines en maternelle, hein, toutes petites, toutes. Mais non, non, ça reste les collègues de CP qui trouvent finalement que les élèves qui arrivent de chez moi ne sont pas assez formatés, que le niveau est hétérogène, qu'il y a des enfants qui savent quasiment tout lire et puis d'autres qui ne sont pas entrés dans la lecture. Pas beaucoup, hein, mais quelques-uns. Et ça donne un niveau qui leur donne des difficultés de gestion. Et puis, elles trouvent que mes élèves sont un peu. Oui, ont perdu l'habitude qu'on leur dicte leur conduite et me disent des fois, tu sais, c'est pas confortable hein, pour eux hein, de se retrouver.
Faudra les inviter aussi le jour où vous lancez, faudra les inviter aussi. Non, non, je rigole, mais j'ai conscience que ça peut. Voilà, je peux comprendre votre frustration, surtout quand on pense aux enfants, en fait. Parce que, bon, les quelques réflexions de vos collègues, vous pouvez. Voilà, si c'est ponctuel, j'imagine
Oui,
que ça ne vous perturbe
c'est pas
pas.
moi, c'est pas.
C'est par rapport aux enfants, en fait, que vous êtes
C'est
embêtés.
ça. Ce sont les enfants. Je voudrais pas. J'avais l'impression peut-être de leur rendre un mauvais service. C'est-à-dire que de leur. C'est un cadeau que je leur offre et je ne vois pas ne pas leur offrir, mais il est peut-être un peu encombrant ce cadeau. Vous voyez, c'est comme si j'adorais les animaux et que je me dise, mais ah ben mon filleul, je vais lui offrir un petit chat. Et puis ben, c'est pas moi qui le nourris, quoi, derrière, et c'est pas moi qui m'en occupe. Donc voilà, j'ai un peu ce sentiment d'offrir un cadeau un peu encombrant à mes élèves, dont ils ne peuvent rien faire de bien concret l'année suivante, quoi.
Alors, c'est sûr que pour eux, ça doit demander encore de changer un peu leurs habitudes et se dire, bah mince, avant, je pouvais plus choisir, je pouvais plus, j'avais plus de liberté de mouvement et toutes ces libertés, je les perds. Donc, c'est sûr que pour eux, ça doit quand même, voilà, être un choc. Mais moi, je me dis, tout ce que vous leur apportez pendant un an et tout ce qu'ils ont pu construire pendant cette année-là, bah, c'est plus fort que le désagrément pour de l'année suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît quand même. Sous ce qui est pris n'est plus à apprendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais j'espère en tout cas, c'est.
Et du coup, une question quand même délicate hein, que vous m'avez envoyée. Et j'ai demandé aussi l'avis des personnes qui se forment avec moi actuellement sur ma formation Impact. Et du coup, si vous voulez, je peux vous partager l'avis de Anne, Ingrid et Virginie par rapport à votre question.
Ah ben volontiers.
Alors, je vous lis l'avis de Anne. Selon moi, une année dans un système pédagogique Montessori, c'est toujours ça de pris. Ils auront eu quelques bases, des prémices qui vont leur servir plus tard. Pour moi, il faut voir à long terme. Je comprends le sentiment de Marjorie, mais on ne peut pas enseigner sans avoir des convictions, une croyance en ce que l'on fait. Donc si Marjorie croit dans les bienfaits de cette pédagogie, il faut continuer. Notre motivation, notre croyance peut être aussi à long terme une motivation pour ses pairs. On ne transforme pas des savoir-être et savoir-faire des enseignants du jour au lendemain. Il faut être patient avec les collègues et persévérant pour montrer que ce que l'on fait répond beaucoup plus aux instructions officielles qu'une façon de faire classique qui ne donne pas le choix, ne permet pas l'autonomie, la motivation, l'intérêt. Cela entraînera, on espère, une réflexion de l'équipe enseignante en voyant arriver des élèves plus calmes, plus autonomes et plus performants. Une année avec Marjorie sera pour certains élèves une bouffée de liberté, un tremplin pour aimer apprendre. Deux mots pour finir, courage et persévérance.
Merci.
Donc, je partage l'avis de Anne et je vais vous lire celui d'Ingrid. J'ai peu d'expérience sur le plan purement enseignante, mais mon expérience d'éducatrice spécialisée m'amène à déculpabiliser Marjorie. Les enfants vont engrammer tout ce qu'ils auront appris et cela leur sera utile pour eux. C'est le plus important. Afin d'éviter les clivages entre collègues, je conseille de proposer des temps d'échange sur des projets spécifiques, sur des temps festifs. En tout cas, cela avait été porteur pour moi et mes collègues. Cela permet de mieux se comprendre et d'amener tranquillement le changement. Peut-être sera-t-elle surprise de ce que font aussi ses collègues ou de leur capacité à bouger. Bon courage et patience.
Merci beaucoup Ingrid.
Et Virginie a dit, j'ajouterai qu'une année avec Marjorie pourra les aider à prendre conscience de leurs capacités, leur donner confiance en eux. Ils apprendront à valoriser les essais, le cheminement plutôt que le résultat fini. Et c'est un atout, quelle que soit l'attitude des adultes rencontrés ensuite. Donc, Virginie, Ingrid et Anne, voilà, partagent mon avis qu'une année, c'est toujours ça de prix et que toutes les compétences qu'ils vont pouvoir développer pendant cette année ou des fois, voire deux, c'est fondamental, quoi.
Voilà, bon, bah, j'espère aller jusqu'au bout de ces attentes parce que ça fait presque des attentes très fortes, là, du coup. Parce que, bon, c'est sûr que... c'est toute une cohorte hein, qui arrive avec des habitudes d'enseignement classique et ça prend quand même des mois et des mois. Et certains, à la fin de l'année, j'avoue, n'ont pas, au bout de toute une année, n'ont quand même pas réussi à développer toutes les compétences que j'aurais aimé. Mais,
oui, bon, après, on n'a pas de baguette magique non plus et puis voilà, c'est pas... Voilà. Ouais. Et je comprends tout à fait ce que vous dites quand vous dites je ne peux plus revenir en arrière, parce qu'en fait c'est quand on comprend le développement de l'enfant, quand on voit que les recherches elles vont dans le même sens et que c'est plus possible en fait de faire comme avant, on peut pas revenir en arrière. Je comprends totalement ce que vous dites.
Ah mais moi simplement ils arrivent le matin à l'école en courant et en souriant, ouais. Et rien que ça c'est une révolution. Déjà quand j'étais en système classique, je disais que ce que j'aimais dans mon métier, ce que j'aimais le plus dans mon métier, c'était quand de temps en temps il y avait un enfant qui disait ah d'accord, j'ai compris. Et ça m'arrivait plusieurs fois dans l'année. Maintenant ça m'arrive plusieurs fois par jour. Mais il est hors de question de revenir en arrière.
Ouais, c'est plus possible, quoi.
je reçois ma dose de dopamine trop souvent.
et quand quelle différence vous observez entre les enfants quand ils arrivent dans votre classe et quand ils en repartent? Quel est le changement? Vous avez parlé de l'entraide, de l'autonomie, le mouvement.
Alors, oui, beaucoup plus d'entraide. Certains développent l'autonomie, pas tous. Honnêtement, il y en a qui... ça ne suffit pas comme temps. Beaucoup plus de franchise aussi, puisqu'on a une table de la paix où je leur apprends que je ne suis pas là pour savoir qui a tort ou raison, mais pour comprendre ce qui s'est passé, pour les apprendre à dépasser ce conflit sans violence. Donc du coup, quand je leur demande « donc tu l'as tapé, c'est ça ?», ils me répondent « oui », parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être grondés. Et très rapidement, c'est plus un problème. Il y en a un qui a tapé l'autre. Oui, il l'avoue, il ne commence pas à dire « mais c'est parce que non, c'est lui » ou tout ça. Tout ça, ça change énormément. Et puis oui, certains gagnent vraiment en calme et en concentration, même si je voudrais toujours plus. Mais bon, c'est seulement ma troisième rentrée là en maternelle et donc seulement la troisième rentrée avec où je peux vraiment faire ça toute la journée, quoi.
Oui, donc c'est sûr, il faut du temps. Mais déjà, l'impact, il est déjà considérable. Mais plus, voilà, plus les années vont passer. Si en plus vous arrivez à les avoir 2 ans de suite et avoir le triple niveau, petit, moyen, grand, voilà, les choses.
Alors là, ce serait le rêve, oui. Je demande tous les ans. Là, bon, j'avais réussi à obtenir donc de garder mes petits chez les moyens et avec un peu de chance, en garder au moins une partie encore chez les grands. Il y en a peut-être que je vais réussir à avoir 3 ans de suite.
Ouais.
Ça, ce serait le top.
Ouais.
Parce que là, vraiment, je vois la différence aussi hein, par rapport à l'année dernière. Le fait qu'il y en ait 8 qui connaissent mon fonctionnement, ça va beaucoup plus vite hein, pour tout le monde.
Bah oui, garder les enfants qu'une année, c'est une hérésie en fait. On n'a pas le temps d'apprendre à les connaître, on n'a pas le temps de les accompagner. Ils changent de fonctionnement chaque année avec voilà, des maîtresses différentes, donc des fonctionnements différents. Enfin, c'est, y a rien qui fonctionne en les gardant qu'une année.
Ben non, et surtout avec ce système-là, hein, parce que ça demande vraiment des mois et des mois hein, pour retrouver sa motivation endogène. Hein. C'est très très long.
Et ben merci beaucoup Marjorie, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet parce que je pense que vous n'êtes pas la seule enseignante en France à vous, voilà, vous culpabiliser ou à vous poser des questions si est-ce qu'un an ça vaut le coup. Et voilà, je pense vraiment qu'un an ça vaut le coup.
Eh bien, merci beaucoup.
On va s'arrêter là si vous avez plus de questions.
Non, 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 ça m'a fait du bien de discuter avec vous. Bon, ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue et puis
Ouais.
que.
Et vous continuez de semer des petites graines avec les
Et puis voilà,
stagiaires, les collègues.
puis peut-être qu'un jour mes collègues de CP
Ouais.
voilà, se diront, ouais. Enfin, pour ça, il faudrait presque une cohorte entière qui arrive en CP avec en étant beaucoup plus calme. Parce qu'en fait, je crois d'ailleurs, j'ai moi aussi hein, beaucoup de mal à savoir quelle est la part exacte de la pédagogie dans le fait qu'il soit plus calme, etc. C'est vrai que ça grandit tellement vite à cet âge-là que peut-être qu'il se serait calmé, et il se serait calmé d'ailleurs sans doute plus vite. Alors, ce ne serait pas un calme, ce serait pas un calme personnel, ce serait une obéissance.
Ouais.
Mais il m'arrive aussi de me dire, mais finalement, les élèves de mes collègues obéissent plus.
Mmh. Mais l'obéissance,
Eh oui.
voilà, c'est
Mais des fois, dans l'immédiat, on aimerait une obéissance pour pouvoir passer enfin à la suite, parce que. Là, ça fait 5 minutes qu'il y en a qui attendent dans le calme, que certains se mettent à obéir. Donc, c'est vrai que.
après, dans la vie, je trouve que l'autodiscipline est plus intéressante que
Elle
juste
est plus
obéir.
intéressante et j'en suis convaincue aussi, mais ça prend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Et des fois, en un an, je n'ai pas le temps.
Ben oui, c'est
Avec
sûr.
certains enfants, je n'ai pas le temps.
Ouais, non, c'est sûr, c'est que c'est court une année avec les
Ouais. Et
vacances.
donc, du coup, ben ouais, je pense que ce qui sèmerait des graines, c'est que les élèves qui viennent de chez moi,
Ouais.
soit non seulement plus performant et encore, mais qu'il soit aussi plus calme, plus ancré, plus.
Ouais, peut-être que la première étape, ça va être de donner envie à vos collègues de maternelle pour qu'il y ait vraiment tous les enfants de maternelle qui montent en CP.
Ah, ça, ce serait le top.
Mais moi, je tenterai quand même le petit moyen grand, hein, parce que vu que vous avez une bonne entente avec vos collègues de maternelle, je pense que je tenterai d'avoir des petits moyens grands. Puis du coup, peut-être qu'elle aussi aurait des petits moyens grands et ça ferait une autre dynamique pour les
Oui,
classes
c'est ça.
maternelles.
Bah, alors, le cours triple, pour l'instant, ils ne sont pas du tout
Ah.
pour eux, hein, pour eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on essaye, les petits, on essaye de les partager un petit peu parce que ça permet l'après-midi d'en avoir moins quand ils sont à la sieste. Donc, en général, il y a 2 classes qui ont des petits. L'année dernière, on était 3 classes à avoir des petits. Ça dépend, là, en ce moment, on a des effectifs. Qui monte jusqu'à. Ben là, il y a 41 grands sur l'ensemble de l'école. Mais il y a 2 ans, ils étaient 27 et je les avais tous, du coup.
Ben oui.
Et je les avais en cours
Les
simple.
effectifs évoluent, mais c'est vrai que le multi-âge, il y a tellement de bénéfices que voilà, c'est tout le monde y trouve son compte, quoi, les adultes, les enfants.
Ouais, c'est sûr. Ben là, moi, mes moyens que j'ai gardés de chez les petits, là, je fais quasiment. Enfin. Moi, quasiment pas de différence avec les grands. Et les gens qui viennent dans ma classe, donc les stagiaires, tout ça, ne savent pas si un enfant
Ouais.
est un grand ou un moyen. Ils n'ont pas
Ouais.
deviné.
Ouais, c'est dingue.
Ouais.
Ouais, non, faut ça, faut aller pas convaincre, mais voilà, commencez par vos collègues de maternelle pour que vous
Voilà.
ayez plus de graines de
Va faire comme ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup.
Merci aussi à vous et passez une bonne soirée.
Merci vous aussi. Au
Au
revoir.
revoir. Quand j'ai échangé avec Marjorie hier soir, je n'ai pas fait le montage dans la foulée, il était tard. Et cette nuit, j'ai repensé à mon échange avec elle et je me suis dit qu'il y a quelques pistes que j'aurais pu lui suggérer et j'y ai pas pensé hier soir. C'était par rapport à la transition. Parce que, alors, quand je dis transition, ça peut être sur le dernier mois de grande section, sur le mois de juin. Je ne dis pas transition dans le sens ne plus leur laisser leur liberté de mouvement, leur liberté de choix, la possibilité de s'entraider. Non, non, je ne dis pas d'arrêter tout ça pour les préparer au CP, mais peut-être plus aider, accompagner les enfants pour leur faire, enfin, pour les aider en fait, pour qu'ils aient toutes les cartes en main pour que l'intégration au CP se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et je pense par exemple à la lecture. Pour les enfants qui savent déjà lire vraiment couramment et qui sont vraiment bien entrés dans la lecture, je pense que ça pourrait être intéressant de leur apprendre le nom des lettres. Parce que évidemment, quand l'enfant est en train d'apprendre à lire, c'est le son qui compte, c'est pas le nom. Le nom des lettres, on s'en moque à cette étape-là. Mais pour les enfants qui sont lecteurs, ça peut être intéressant en fin d'année de leur dire, tu sais, en CP, la maîtresse va ne parle, enfin, elle parlera toujours des sons, bien sûr, mais elle va aussi utiliser le nom des lettres. Donc si tu veux, est-ce que tu veux qu'on les apprenne ensemble pour être prêt pour le CP? Par contre, ça se conseille, je déconseille fortement pour les enfants qui ne sont pas encore rentrés dans la lecture, parce que pour les enfants qui en sont à cette étape, c'est vraiment le son qui compte. Mais voilà, c'est un petit exemple qui pourrait permettre de préparer la transition. Alors, voilà, c'est un seul exemple. Peut-être que vous en aurez d'autres qui vont vous venir en tête. N'hésitez pas à les partager. Et c'est ce qu'on fait aussi beaucoup dans la formation Impact, en fait. Pendant les visios, on échange ensemble sur un problème concret. Le problème de la transition en CP, et ça, c'est pas un sujet sur lequel on a échangé pour l'instant, mais concrètement, c'est vraiment ce genre de sujet-là, des sujets concrets. J'ai ce problème dû à l'organisation dans mon école. Comment je peux faire en sorte que cette transition soit la plus douce possible pour les enfants. Il y a autre chose aussi. Hier pour moi, aujourd'hui pour vous, Marjorie a dit que le fait que les enfants mettent la main sur son épaule dans la cour et pour ne pas l'interrompre, elle a adopté cette petite habitude et que ses collègues font la même chose. Et j'ai pas voulu l'interrompre à ce moment-là. Elle a dit c'est pratique quand même pour nous, on n'est pas interrompu, on peut au moins finir notre phrase sans être interrompu. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser aussi. Alors, elle a vu l'avantage pour les adultes, mais moi, je vois aussi l'avantage pour les enfants, parce que ça leur permet de développer leurs fonctions exécutives. Donc, quand l'enfant met la main sur l'épaule de l'adulte, l'épaule ou le poignet, moi je préfère le poignet, pour nous parler, il est obligé de retenir dans sa mémoire de travail l'information qu'il a envie de nous transmettre. Il travaille aussi son inhibition parce qu'il est obligé de se retenir. En fait, il a très très envie de nous dire ça, mais il est obligé d'attendre qu'on lui donne le signal pour commencer. Et la flexibilité cognitive aussi. Des fois, en fait, l'enfant, si ça dure trop longtemps pour lui, il va devoir faire preuve de flexibilité. Dans le sens, si par exemple c'était une question, voilà, il avait besoin d'une solution à un problème, si l'adulte met un peu trop de temps à lui apporter cette solution, et eh ben des fois il va faire preuve de flexibilité et se dire, ah ben non, mais en fait c'est bon, j'ai trouvé la solution, je sais comment régler le problème moi-même. Et des fois ils partent alors qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de les écouter. Donc voilà, je voulais rebondir sur ce que Marjorie avait dit par rapport à la main sur l'épaule, parce que ça permet vraiment de développer les fonctions exécutives des enfants. Et la dernière petite chose que je voulais dire à Marjorie hier, et j'ai oublié, c'est quand elle a dit que ses collègues ne l'écoutaient plus ou avaient des fausses croyances sur quand elle prononçait le mot Montessori ou le mot bienveillance. Alors là, j'ai vraiment un conseil, à mon avis, qui est utile. Je l'ai déjà mis en place plusieurs fois dans mes écoles précédentes, et ça, je pense que celui-là, il est efficace. C'est de ne plus prononcer le mot Montessori ou le mot bienveillance. Alors, je sais que ça peut être un peu frustrant, parce qu'on aime bien redonner à César ce qui appartient à César. Mais non, c'est pas tout à fait ça l'expression, mais c'est pas grave, vous m'avez comprise. Je pense qu'au lieu de dire le mot Montessori ou le mot bienveillance, il faut utiliser d'autres mots, comme par exemple l'impact du mouvement sur l'apprentissage, l'impact du choix, du libre choix et du sentiment de contrôle, parler des fonctions exécutives, dire en fait pourquoi on fait les choses et dire que, par exemple, pour le mouvement, il y a des études qui montrent que la liberté de mouvement va favoriser l'apprentissage et s'appuyer sur ces études scientifiques. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire dans deux épisodes, un sur le mouvement, un sur le libre choix, et je vais continuer ces épisodes-là. Donc, je dis pas que je ne prononce jamais le mot Montessori dans ces épisodes, mais vous n'êtes pas obligé de les faire écouter directement à vos collègues, vous pouvez vous les écouter et prendre les arguments à l'intérieur qui vous intéressent, et quand vous communiquez, quand vous échangez avec vos collègues, vous évitez les mots qui fâchent. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est une petite piste qui peut peut-être permettre d'avoir plus l'écoute de vos collègues. Et le fait aussi que des recherches confirment ces données, je trouve que cet appui scientifique a quand même aussi de l'impact. Donc voilà pour le dernier petit conseil que j'ai oublié de donner à Marjorie hier. L'épisode arrive à sa fin. Merci pour votre écoute. Et si le langage est un sujet qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire dès maintenant pour le 3 décembre. À la semaine prochaine !